les nouvelles ondes.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous d'actualité politique. Vous écoutez Les Nouvelles Ondes, une émission que vous propose La Péniche. Et aujourd'hui, eh bien, une émission sur un thème particulier, le thème de l'écologie, que nous allons essayer de voir sous trois prismes, divisés en deux parties distinctes pour cette interview. D'abord, essayer de comprendre une approche avec la société civile, avec d'une part les entrepreneurs et les citoyens, mais aussi également l'approche du politique, pour essayer de répondre à une question plus générale, la place respective de ces deux approches dans le combat écologique. Et à mes côtés, aujourd'hui, Maxime et Rémi, qui ont beaucoup de questions à poser à nos invités. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin pour essayer de comprendre et d'analyser un peu ces sujets. Tout d'abord, Ferdinand Richter.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes le représentant France d'Ecosia, du moteur de recherche Ecosia. Pour répondre à cette question, nous accueillons également une femme politique qui n'en est pas à sa première intervention. Vous êtes engagée depuis 1993 au sein d'Europe Écologie Les Verts, membre fondatrice de la Fondation Copernic. Vous étiez conseillère régionale en Ile-de-France et conseillère maintenant d'arrondissement à la mairie du 11e arrondissement de Paris. Bonjour Francine Bavet.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors chers auditeurs, chères auditrices, comment va se dérouler l'émission? Pour le plan, on va commencer avec une première partie d'interview où on va essayer d'analyser qu'est-ce qui va se passer, en tout cas du point de vue des initiatives citoyennes et entrepreneuriales. Nous en parlerons d'ailleurs avec nos deux invités. Ensuite, on fera une pause. On fera une pause avec l'instant engagé, puisque ce matin, je reçois la présidente de Pavé, Manon Calmeil. Bonjour,
bonjour
Manon. Après ce moment, nous allons revenir avec nos invités pour une deuxième partie d'interview, où là, nous évoquons plus eh bien, l'engagement et le rôle, la place aujourd'hui, en 2018, des élus dans le combat écologique. Et enfin, nous terminerons eh bien, cette émission avec Laszlo, qu'on va retrouver pour une chronique aujourd'hui.
Bonjour à tous.
Et pour commencer eh bien, cette émission avec Maxime et Rémi, eh bien, je vous laisse la parole.
Bon, tout d'abord, bonjour Madame Bavet, bonjour Monsieur Richter. Donc, nous allons tout d'abord parler des initiatives issues de la société civile, qu'elles soient privées, citoyennes. Donc elles sont nombreuses, très efficaces par moment en termes de résultats écologiques et se font en dehors, voire contre la décision politique. Et on peut se demander, le rôle du politique est-il hors jeu? Donc tout d'abord, Monsieur Richter, le bilan d'Ecosia, nous allons faire un bilan. Quelle origine, quelles actions, pour quels résultats? C'est à vous, M. Richter.
Bah, Ecosia, c'est un moteur de recherche. Donc, à la différence que 80% des bénéfices sont investis dans des projets de reforestation dans le monde. Il a été créé en 2009 à Berlin, à la suite d'un voyage autour du monde du fondateur, qui a tout simplement vu ce que la déforestation provoquait un petit peu partout et qu'il fallait agir. Et il s'est posé la question, comment on peut impliquer un maximum de personnes et aussi lever des fonds. Et un petit peu par hasard, il est tombé sur les moteurs de recherche qui quand même génèrent beaucoup, beaucoup d'argent. Donc il faut savoir, Google, ils font 80 milliards par an. Et il s'est dit, ben, pourquoi pas utiliser cet argent pour faire du bien? Et c'est comme ça que l'idée folle est née. Et je dirais, ça a vraiment pris, notamment l'année dernière, où maintenant il y a cette conscience qui est de plus en plus présente. Et du coup, l'année dernière, on a planté plus de 15 millions d'arbres dans le monde. Il y a environ 30 000... familles locales qui vivent de cette activité-là, qui prennent soin des terres, qui utilisent voilà, des techniques permaculture, agroforesterie pour vraiment refaire que les sols ils vivent un petit peu et qu'ils puissent en vivre. Donc d'accord. C'est assez incroyable.
Très ouais. Bien. Et nous avons pu voir qu'au cumulé, vous avez planté 20 millions d'arbres,
voilà,
c'est ça?
Voilà, exactement.
Très bien. Et pour la petite anecdote, Sciences Po Environnement a installé Ecosia sur les ordinateurs de Sciences Po.
Alors, justement, je me permets, c'est vrai que des arbres vont continuer à être plantés, puisque Sciences Po Environnement en fait, vient de négocier avec l'administration de mettre en favori en fait, Ecosia comme moteur de recherche. Et on espère, en tout cas, ça devrait bientôt arriver, que ce moteur de recherche arrive en première page pour tous les étudiants de Sciences Po en, fait, en bibliothèque.
Quelle belle nouvelle!
Donc, concernant Ecosia, comment est venue l'idée de créer Ecosia?
Alors lui, c'est essentiellement Christian Kroll, c'est le nom du fondateur, qui a, voilà, comme je disais, il a fait un tour du monde. Il a vraiment vu l'impact de nos modes de consommation, en fait. Et il s'est posé la question, qu'est-ce qui pourrait avoir le plus d'impact positif aussi par rapport à tout ce qui se passe? Et l'arbre a quand même un rôle central dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, les terres, quand on regarde les terres à nu, ça n'existe pas dans la nature ou très très peu. Et que l'arbre, il permet à un moment donné de vraiment recréer un écosystème, que ce soit au niveau des animaux, mais aussi des plantes. Et en détruisant ça ou en créant des monocultures qui finalement sont des déserts verts, mais ce n'est plus des forêts, on détruit vraiment beaucoup de choses, non seulement notre nature, mais on détruit notre avenir parce que les espèces disparaissent, les sols s'appauvrissent, et on le voit même en France. En France, aujourd'hui, le fait d'avoir coupé tous les... d'avoir des champs à perte de vue avec des monocultures, on a des terres mortes, il n'y a plus rien qui pousse en fait. Si on met... et l'idée de planter des arbres, elle est venue de là. Ouais.
Et nous avons pu voir pendant nos recherches que vous intervenez principalement dans les pays du Sud,
ouais.
Du Sud, à l'exception de l'Espagne. Est-ce que à terme, vous avez pour ambition de créer, d'établir des partenariats avec des pays, par exemple, d'Europe?
Ouais. Alors, pour l'instant, on est dans ce qu'on appelle des biodiversity hotspots.
Okay.
C'est-à-dire, et l'Espagne en fait partie, le bassin méditerranéen. Et après, c'est l'Afrique, l'Indonésie. Voilà, c'est vraiment là où la biodiversité est le plus en danger. Donc, on a dit que les populations sont très pauvres. Donc, on s'est dit, là, il faut vraiment agir rapidement parce que c'est des personnes qui n'ont même pas les moyens de faire quoi que ce soit. Ici, en Europe, on aurait les moyens. Voilà, et c'est pour ça, ici, c'est un petit peu un rôle différent qu'on va essayer de prendre. C'est plus de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire avancer ici en Europe qui va aider justement la cause qui est plus... Et là, on a de grands débats. J'ai parlé avec les agriculteurs bio, par exemple. C'est quoi le premier step? Est-ce que c'est, par exemple, de viser du 100% bio dans les 15 ans à venir? Ou est-ce que c'est de l'agroécologie ou l'agroforesterie ou encore autre chose? Et je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avis là-dessus. Et qu'aujourd'hui, on essaye vraiment de soutenir des projets, peut-être de fermes en agroécologie, de peut-être aider les agriculteurs qui veulent passer au bio. Voilà, il y a toutes ces réflexions qu'on a pour faire avancer les choses ici. Et on est en plein dedans. Donc il n'y a rien de signé encore, mais c'est un petit peu... Plus de personnes utilisent Ecosia, plus on a de moyens. Et comme on ne peut pas tout utiliser pour les arbres, parce que les arbres, ça prend un peu de temps quand même à pousser, il faut trouver un petit peu d'autres engagements aussi. Ouais.
Et notamment au Brésil, serait-il possible, brièvement, de faire l'état des lieux concernant la forêt amazonienne? J'imagine ça demande un travail conséquent. Avec les partenaires. Parce qu'il me semble qu'il y en a plusieurs au Brésil.
Ouais. On est Brésil, toute l'Amazonie, Pérou. Là, on démarre en Colombie aussi. C'est la réalité derrière tout ce petit projet qui semble simple et quand même très complexe parce que il y a les populations locales, il y a justement les politiques qui par moment c'est stable, par moment c'est pas très stable. Et avec tout ça, il faut jouer. Donc c'est pour ça qu'on nous aussi on a choisi de soutenir des associations locales qui sont déjà implantées. Et aujourd'hui, c'est notamment au Brésil, tout ça, c'est pas facile, on va dire. Parce que quand même, il y a encore des multinationales très présentes qui utilisent des méthodes pas toujours très joyeuses, on va dire, pour s'approprier les terres. Et finalement, c'est contre ça qu'on agit aussi. Et que le plus grand travail, en fait, c'est aussi de convaincre les paysans locaux qu'ils ont un intérêt à protéger leurs terres. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un grand chèque qui arrive d'une multinationale en disant « Je vais prendre tes terres, tu vas t'enrichir, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent ?» Pas grand-chose souvent. Et ce travail presque de réapprentissage de qu'est-ce que ça veut dire de prendre soin des terres, c'est presque ça le plus difficile et le plus essentiel.
Donc on peut pas nier que c'est un bilan qui est extrêmement positif pour Ecosia. C'est une bonne chose, c'est une bonne initiative entrepreneuriale qui est fondamentalement écologique. Moi, j'ai une question qui concerne l'utilisation qui est faite par les consommateurs d'Ecosia. C'est-à-dire que le moteur de recherche Ecosia part du principe que plus vous faites de recherche, plus vous participez au projet, plus vous plantez d'arbres. Donc, dans la démarche, ce qu'ils risquent d'oublier, c'est qu'une recherche sur un moteur de recherche équivaut, par exemple, il y a un chiffre qui ressort souvent, c'est une ampoule ou deux allumées pendant une heure. Il y a une question qui est celle de la déresponsabilisation des utilisateurs, dans le sens où quand ils vont faire une recherche sur Ecosia, ils vont se dire « je plante un arbre, c'est bon, je me suis lavé les mains, je peux continuer de faire de recherche, il n'y a aucun problème ». Et quand on faisait une recherche pour préparer l'émission, on est tombé sur Lilo, qui est un moteur de recherche français, et qui propose à ses utilisateurs de décider des initiatives auxquelles donner. Et on a trouvé que c'était une bonne chose dans le sens où ça permettait aux utilisateurs de se responsabiliser et de vraiment être actifs dans la démarche écologique. Est-ce que vous pensez que Ecosia pâtit à responsabiliser les utilisateurs, ou est-ce que vous pensez que c'est un problème marginal?
Il y a deux choses. Il y a une fois le cas Lilo qui font exactement comme nous. Donc c'est la responsabilité de juste mettre une goutte d'eau quelque part, elle est quand même elle est là, mais elle est, voilà, c'est pas aller dehors et aider vraiment l'association. Donc, pour moi, la question est plus aujourd'hui, quoi qu'on fasse dans nos modes occidentaux, ça a un impact. Et c'est vrai que cet impact est souvent pas forcément positif pour l'environnement, parce qu'on a des modes de fonctionnement qu'on a depuis quelques années, et là on se rend compte qu'il y a vraiment un impact négatif de beaucoup de choses. La question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête tout? Ou est-ce qu'on essaye pendant un certain temps d'utiliser certains outils existants pour changer lentement de cap? Parce que la question, c'est pas les gens qui sont engagés, que ce soit avec nous, avec Lilo, avec d'autres... Ils sont déjà engagés. Moi, je travaille beaucoup avec, notamment avec des influenceurs qui sont dans le zéro déchet, pour promouvoir toutes ces belles initiatives. Mais la question, c'est aujourd'hui comment on arrive à faire un changement d'échelle. Ça veut dire, monsieur, madame, tout le monde, les millions de personnes qui ne sont peut-être pas encore sensibles à ça, mais qui utilisent un moteur de recherche. Donc aujourd'hui, l'idée que la stratégie qu'on a, nous, c'est de faire un moteur de recherche qui puisse être vraiment grand public pour qu'on puisse avoir une chance à un moment donné d'éveiller les consciences aussi chez ceux qui ne le sont pas encore. On peut en discuter et peut-être qu'il y a des avis différents là-dessus. Et c'est aussi en interne quelque chose où on est très critique par rapport à ça. Et bien entendu, nous, on n'invite pas les utilisateurs à surconsommer le moteur de recherche. Au contraire, voilà, en même temps, c'est la solution qu'on a aujourd'hui avec, voilà, avec des résultats qui sont là.
C'est donc en fait une solution qui est celle de la compensation. C'est-à-dire qu'il y a un coût carbone à l'origine de la recherche sur un moteur, et donc on va compenser ce coût carbone en plantant des arbres. Et
c'est plus que de la compensation, parce qu'aujourd'hui, nous, si on veut pas du tout rentrer dans ce calcul-là, parce qu'on n'est pas d'accord avec ce « je pollue et du coup je compense et du coup j'ai le droit de continuer
donc,
à polluer ».
Ça veut dire que vous avez, au sein d'Ecosia, réfléchi à des façons de réduire directement le coût carbone de la recherche?
Bah, la recherche aujourd'hui, rien qu'un ordinateur, de produire un ordinateur, ça a un coût énorme. Donc, bien entendu, ça, c'est une question très très complexe. Mais aujourd'hui, là où on peut agir, c'est de promouvoir tout ce qui est zéro déchet, tout ce qui est une vie plus responsable. Et tous la communication qu'on fait sur nos réseaux sociaux, mais aussi avec nos partenaires, ça va dans ce sens. Et c'est là où aujourd'hui, nous, on a le plus d'impact au niveau des serveurs, au niveau vraiment du dur. Au jour d'aujourd'hui, on a pas beaucoup de possibilités à vraiment changer à grande échelle.
Et puis, puisque vous parlez de vos partenaires, j'avais une question sur ce pacte avec le diable, entre guillemets, que vous avez fait avec Bing et Yahoo. C'est bien ça, c'est Bing et Yahoo, les partenaires que vous avez.
C'est Bing, on n'est pas avec Yahoo.
Non, d'accord, ouais. D'accord, très bien. Est-ce que dans le rapport de force, il n'y a pas un déséquilibre?
Vous voulez dire entre Microsoft et nous?
Ah oui, là, bah, un déséquilibre qui impacte évidemment la décision finale, parce que c'est des partenaires qui n'ont pas la même conscience écologique que vous et qui prennent des décisions qui ont des impacts sur votre façon de faire.
On est d'accord. Et là, je dirais presque qu'on rentre dans des discussions un petit peu plus politiques, parce qu'on se demande, est-ce qu'il faut travailler avec les multinationales qui ne sont pas aujourd'hui engagées dans l'écologie, ou est-ce qu'il faut dire c'est le diable, comme vous venez de le dire, et du coup, on va les rejeter et on va créer une confrontation qui, voilà, je ne sais pas si elle est toujours saine. On prend le risque de parler avec ces gens, on prend le risque d'être utilisé pour... mais en attendant, on plante des arbres, on a des moyens de le faire. Donc aujourd'hui, je suis loin de dire que c'est la solution parfaite et idéale. Ouais, et j'invite chacun à réfléchir sur le sujet. Mais j'ai vécu un an sur un projet de permaculture dans ma forêt. Et c'était super. Et c'est pas ça qui va sauver le monde, d'après moi. Donc à un moment donné, j'ai eu vraiment ce besoin de m'engager davantage. Et je crois qu'avec l'idée d'exister... pour planter les arbres, ça veut dire que tout l'argent qui est généré est investi dans une cause juste, c'est un très bon pas dans la bonne direction. Encore une fois, ça ne règle pas tous les problèmes, mais voilà, c'est un petit peu la vision qu'on a de la chose.
Très bien. Et du côté d'Europe Écologie Les Verts, tout d'abord, Madame Navet, est-ce que vous utilisez Ecosia?
Non, j'essaye d'utiliser le moins possible les moteurs de recherche pour les raisons que vous venez de dire. Alors peut-être un petit retour, oui, sur mon histoire pour expliquer mon attitude. Moi, j'avais 20 ans quand le Club de Rome a alerté. Je me suis engagée dans un parti politique qui était un parti de lanceurs d'alerte. Ce que je veux dire, c'est que la première attitude, c'est de réglementer. Quand on se rend compte qu'on n'arrive pas à réglementer, alors on cherche à réguler. Et on prend des alliés où on les trouve. Donc moi, je pense qu'il faut à la fois des acteurs qui, comme Ecosia, essayent de faire évoluer les choses, et aussi des acteurs qui, se fondant sur cette nouvelle conscience, essayent d'augmenter les critères de régulation.
Une sorte de complémentarité, donc, oui. Entre...
Il y a une complémentarité, de mon point de vue, et il faut la faire vivre si on veut une démocratie dynamique.
D'accord, donc vous ne pensez pas que les initiatives aujourd'hui issues de la société civile comme celle d'Ecosia, qui est une initiative entrepreneuriale, peuvent se substituer aux politiques publiques et au rôle des élus?
Je ne le pense pas du tout. Je pense que la compensation permet à chaque citoyen finalement de se sentir bien dans sa peau. Mais vous voyez, il y a de la compensation depuis au moins une douzaine d'années maintenant. Vous voyez que ça n'a absolument pas limité, par exemple, le trafic aérien. Et au contraire, on s'imagine toujours qu'il y aura augmentation du trafic aérien. Donc, je crois que l'effet rebond ne doit pas nous laisser indifférents. Il faut comprendre qu'une petite, même, et c'est vrai aussi pour les politiques publiques, une petite politique publique vertueuse n'est pas suffisante. Il faut vérifier qu'on répond à la hauteur des enjeux quantitativement. Et aujourd'hui, je crois que cette nouvelle conscience, tout le monde la partage, mais nous ne répondons pas à la hauteur des enjeux réellement.
Alors vous parlez justement de réponse à ces enjeux. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'État français répond et soutient assez ces initiatives entrepreneuriales?
L'État français soutient les initiatives, la start-up, comment dire, nation, donc soutient les initiatives entrepreneuriales. Souvent, elles sont innovantes. Est-ce que c'est suffisant? Je ne le pense pas du tout.
Alors, que faudrait-il faire, selon vous?
Bien, je pense qu'il faut, et au niveau français, européen et international, émettre des critères qui soient beaucoup plus ambitieux et qui permettent de réguler la concurrence entre des oligopoles supranationaux et des petites initiatives sympathiques.
Et vous, monsieur Richter, qu'est-ce que vous pensez de cette notion de complémentarité entre le privé et le politique, le citoyen et le politique?
Ah, c'est essentiel. C'est vraiment quelque chose... Parce qu'aujourd'hui, on fait face à des difficultés qui sont mondiaux. Et je dirais même, sans politique, à un moment donné, ça ne marchera pas. Là où moi j'ai des craintes, c'est est-ce qu'on a le courage de prendre vraiment les décisions qui vont déplaire notamment au privé, qui vont faire qu'on va s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, on joue encore un petit peu avec ces notions. Voilà, on prend conscience qu'au niveau écologique, il y a vraiment des choses qui se passent. Mais c'est un problème qui est tellement global, avec des mouvements de population qui vont arriver à cause des... Il n'y a plus rien à manger dans certains pays. Si ça, à un moment donné, au niveau global, au niveau politique, on ne l'attaque pas et on reprend le pouvoir presque. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on est quand même dans une notion de pouvoir politique. Et en même temps, on l'a délaissé aussi au service de grandes multinationales qui aujourd'hui... de mon petit point de vue, font un petit peu ce qu'elles veulent. Et ça, c'est dommage. Voilà, ouais.
On va parler maintenant d'une initiative citoyenne qui a, pour le coup, gagné contre le politique. C'est Notre-Dame-des-Landes. C'est le projet d'aéroport qui a été annulé, avec une décision finale qui aura un impact environnemental énorme, positif. Vous avez soutenu, avec d'autres membres d'Europe Écologie Les Verts, l'opposition au projet d'aéroport. Dans quelle mesure, selon vous, ce soutien a pesé dans la décision finale?
Ah, quelle belle question. Ça faisait une trentaine d'années à peu près que je suis allée de temps en temps à Notre-Dame-des-Landes. Le fait qu'il y ait eu des résistants sur place a totalement modifié la situation, et notamment la situation environnementale. Donc ces résistants sur place nous ont apporté des arguments pour essayer de convaincre. Est-ce que c'est nous qui avons convaincu? Je pense que les États aujourd'hui sont faibles vis-à-vis des entreprises que moi j'appelle maintenant supranationales. Et j'ai entendu un Premier ministre dire qu'il n'y avait pas de place en France pour un troisième hub européen. Et je pense que c'est cet argument a pesé beaucoup dans la décision de notre gouvernement que je considère comme mondialiste, ce qui signifie pas altermondialiste.
Et concernant la mobilisation citoyenne, sans cette mobilisation citoyenne intense, est-ce que selon vous ce projet aurait abouti ?
La décision des gouvernements reste toujours peu transparente et c'est bien dommage. Donc il est difficile de répondre à cette question et je pense qu'une démocratie avancée serait justement une démocratie où les arguments qui ont pesé dans la prise de décision seraient transparents. Ceci étant, sans mobilisation citoyenne, alors je crois qu'il y a longtemps que les travaux auraient commencé et qu'on aurait laissé faire cet aéroport sans se demander si finalement la situation géopolitique n'avait pas changé. Et quand je dis géopolitique, c'est au sens des transports mondialisés.
Alors en 2007, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Qui a, dans ses modalités, interdit, donc pas légalement, mais interdit tout de même, la construction de nouveaux aéroports et de nouvelles autoroutes. Et contre cette décision politique, le gouvernement qui était en place à ce moment-là a décidé de relancer le projet en raison d'une déclaration d'utilité publique. Et là, le politique avait clairement, le politique au sens très large du terme, avait impulsé des positions qui étaient écologiques et qui allaient à l'encontre de l'installation de cet aéroport. Et les citoyens ont pris le relais et ont contesté cette décision. Est-ce que dans ce cas-là, on ne peut pas quand même parler d'une opposition frontale entre, d'un côté, les politiques qui prennent des décisions et qui les appliquent comme bon leur semble, et de l'autre, les initiatives citoyennes qui s'opposent à ces décisions. Est-ce que parler de complémentarité dans ce cas-là, c'est vraiment pertinent ?
Alors, il n'y a pas toujours complémentarité, ou on peut dire autrement que la complémentarité peut impliquer des débats dynamiques et même frontaux. Et il me semble qu'il faut se garder de penser que le politique, c'est quelque chose d'homogène. Le pouvoir, ça n'existe pas. Ce qui existe dans une démocratie, c'est une répartition des pouvoirs. Il y a 800 000 élus en France. Hein. Une répartition des pouvoirs. Et cette répartition implique l'exercice des responsabilités de chaque élu. Mais il peut toujours y avoir une baisse de la volonté de tenir les engagements. Parce qu'il me semble qu'il faut aussi différencier ce qui est de l'affichage politique, et on fait aujourd'hui beaucoup de chartes, de schémas, etc., de ce qui est la décision politique et de la manière dont elle est construite. Et la question aujourd'hui, à mon avis, c'est comment la décision politique embarque les volontés citoyennes. Et donc ces citoyens qui résistent, ce sont les lanceurs d'alerte de notre temps, il me semble.
Monsieur Richter, vous l'avez regardé comment cette affaire et ce projet Notre-Dame-des-Landes ? Cette histoire Notre-Dame-des-Landes, j'ai envie de dire.
Alors, pour être honnête, moi j'admire beaucoup des personnes qui sont engagées depuis longtemps là-dedans, parce que c'est non seulement moi je suis allemand d'origine, donc ça fait pas longtemps que je m'intéresse à tout ce qui se passe là. Il y a juste, moi j'ai vu une vidéo passer sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui présentait Notre-Dame-des-Landes et ce qui se passait sur place. Et je peux que dire, le message de paix et de co-construction qu'il partageait, je suis à 200% pour. Moi, je crois que la difficulté, et ça c'est aussi, moi je le vois avec toutes les approches alternatives de la permaculture, de l'agroécologie, c'est que toutes ces initiatives-là, elles visent l'autonomie. Et qu'aujourd'hui, notamment les grands groupes industriels, sont dans un mode de dépendance. Et que si on a des personnes qui n'ont plus besoin d'engrais pour faire pousser leurs plantes, pour certains industriels, il y a un problème. Et que tant qu'on n'est pas honnête avec ce problème-là, je crois que ça restera toujours un vrai combat. Parce que c'est des personnes, je crois, à Notre-Dame-des-Landes, qui ont vraiment essayé aussi d'une façon très paisible de réfléchir à la société de demain. Et ils n'étaient pas forcément... Je crois qu'ils sont prêts même à se mettre autour d'une table, même avec les industriels, et à voir comment le construire ensemble. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une telle peur de perdre l'entreprise, les bénéfices, tout ce qu'on a, c'est que c'est par moment même pas possible. Et ça, je trouve ça très dommage.
Ouais. Pour ajouter un peu de complexité, on peut être à la fois politique et citoyen. Moi, je me suis trouvée devant un tribunal en tant que citoyenne parce que j'étais allée observer pousser des OGM. Donc, j'étais à la fois dans un gouvernement de région et aussi en tant que citoyenne devant un tribunal. Donc, on voit que c'est la pluralité des mobilisations qui feront une réponse sociale soutenable.
Eh bien, aujourd'hui, il existe beaucoup de jeunes qui se mobilisent et qui plus est en plus à Sciences Po. Et on va en parler tout de suite, pendant la pause de l'Instant Engagé, où aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Manon Calmeil, présidente de Pavé.
Oui, alors présidente, entre guillemets, pour les papiers, parce que c'est difficile d'avoir d'autres modèles de fonctionnement pour une association, mais Pavé, en fait, c'est l'acronyme de plateforme à visée écologique et solidaire. Et on est une plateforme autogérée, du coup on n'a pas de hiérarchie, on n'a pas de bureau, donc moi je suis présidente pour les papiers, pour la préfecture. D'accord. Mais toute notre gestion et notre gouvernance se fait de façon horizontale.
D'accord. Alors, pour ceux qui connaissent, il y a au 28 rue des Saints-Pères un lieu boisé où on peut goûter des raviolis aux chèvres au miel, mais aussi du couscous. Et d'autres, confiseries ou viennoiseries en tout genre, mais Pavé ce n'est pas que ça, ce n'est pas que café. Qu'est-ce que vous faites d'autre ?
Alors oui, donc café, c'est un de nos plus gros projets parce que c'est énormément de travail de tenir une cafétéria de façon autogérée à Sciences Po. Notre deuxième plus gros projet, c'est Sciences Po Tiron, qui est une AMAP. Donc on a Rémi tous les lundis soirs qui vient nous livrer ses légumes, qui est notre maraîcher bio et qui vient nous livrer ses légumes aux étudiants de Sciences Po.
Rémi, autre Rémi. Hein,
Un autre Rémi, en effet.
C'est une structure qui est autogérée. Toi, tu fais partie de Pavé depuis combien de temps ?
Depuis ma deuxième année, donc ça va faire 3 ans avec une pause au milieu à l'étranger.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette structure ?
Quand j'étais en deuxième année, ça, c'était beaucoup par affinité parce que j'avais énormément d'amis sur place et c'était vraiment les thématiques qui approchaient. Donc c'est très très large en fait, le fait que ce soit une plateforme. C'est que ça fonctionne par projet, donc n'importe qui peut venir et monter un projet en lien avec l'écologie ou des projets solidaires. Et on fait beaucoup de choses. Au-delà de la MAP et de café, par ailleurs, on organise aussi la semaine paysanne en partenariat avec la Confédération paysanne et AgroParisTech. Donc ce sera en mars, si vous voulez venir, ce sera sympa. Et on organise aussi des conférences et beaucoup d'événements autour de thématiques qui sont très très vastes.
Et pour ces événements-là, est-ce que tu as l'impression qu'en tout cas à Sciences Po, il y a un véritable écho ? Est-ce que Pavé cherche aussi à recruter de nouveaux membres sur plusieurs projets ? Par exemple, tu parlais de la semaine paysanne. Est-ce qu'il y a d'autres conférences qui incitent en tout cas à vous rejoindre ?
N'importe qui peut nous rejoindre si vous avez des idées de projets à monter. Nous, on peut être la structure qui chapeaute un peu tout ça. Et on est ouvert vraiment à tout projet autour de ça. Et après, pour Café, c'est vrai qu'on cherche souvent des bras pour le fonctionnement.
Vous avez un projet d'installation à l'artillerie. Est-ce que tu peux en parler ?
Oui, alors c'est un projet qui est en discussion avec l'administration. On enchaîne un peu les rendez-vous en ce moment d'ouvrir une deuxième antenne de cafétéria sur le campus parce que on a énormément de demandes et on est vraiment une valeur ajoutée pour Sciences Po parce qu'on propose de la nourriture, notamment à l'heure du déjeuner, qui est vraiment peu chère, surtout comparé à ce qui se fait dans Saint-Germain. Et on a aussi énormément tous nos produits sont bio et énormément de produits vegan ou à la limite végétariens, ce qui n'est pas le cas pour le Crous ou de façon beaucoup plus difficile. Du coup, on cherche à s'étendre et on cherche un peu de place pour installer une deuxième cabane.
Merci Manon d'être venue ce matin dans les Nouvelles Ondes. Tu venais nous parler et bien présenter en tout cas l'initiative et la structure de Pavé. Et on enchaîne tout de suite avec la deuxième partie de l'interview avec Francine Bavet et Ferdinand Richter dans les Nouvelles Ondes.
À présent, nous allons parler du rôle du politique dans le combat écologique. Donc tout à l'heure, Madame Bavet, vous utilisiez le terme « lanceur d'alerte » et nous allons rebondir sur cette notion. Donc le politique est peut-être justement un lanceur d'alerte, mais reste à l'écart des actions concrètes pour plusieurs raisons que nous allons évoquer, logique partisane, limite budgétaire ou encore des impératifs économiques. Donc qu'est-ce que le politique peut apporter de plus au combat écologique ?
Alors aujourd'hui, je crois qu'il faut faire profiter toute la société de l'expérience que nous avons eue en tant que politique écologiste. il y a 30 ans, nous étions des lanceurs d'alerte. Nous sommes devenus un parti de gouvernement, nous sommes entrés, moi la première, dans des exécutifs pour essayer d'accélérer les processus de transformation. Avons-nous réellement réussi ? La réponse est, pour le moins qu'on puisse dire, mitigée. Donc je crois qu'il faut être conscient que certes, il est important de mettre les mains à la pâte, les mains dans le cambouis, mais qu'il faut aussi préserver sa radicalité. Et c'est ce qui est le plus difficile à faire. Quand on observe toutes les enquêtes sur les prises de position concernant les questions environnementales, on se rend compte que les politiques sont toujours les derniers à réagir, c'est-à-dire qu'ils sont plus conservateurs que la société civile. Plusieurs enquêtes l'ont prouvé. Pourquoi ? Parce qu'un politique a aussi la responsabilité d'être précautionneux. Donc finalement, il agit toujours avec un temps en retard. Et s'il perd sa radicalité pour montrer à quel point il est raisonnable, responsable, eh bien je crois que ce temps en retard devient du freinage et non plus de la précaution. Et c'est ce paradoxe-là qu'il faut aujourd'hui assumer, je crois.
Et vous dites que le moyen était notamment d'entrer dans des gouvernements. En un mot, que pensez-vous aujourd'hui de Nicolas Hulot dans le gouvernement d'Edouard Philippe ? En un mot, brièvement.
Il fait ce qu'il peut.
Très bien, on restera sur ce mot. Monsieur Richter, est-ce que vous pensez qu'Ecosia aurait vu le jour si des élites politiques n'avaient pas fait ce travail justement de sensibilisation ?
Question difficile. De Christian, comment lui l'a démarré tout ça, c'était quelqu'un, je dirais, d'éveillé, parce que quelqu'un d'éduqué, qui avait fait une école de commerce aussi. Donc forcément, on pourrait dire que c'est lié aux politiques. Après, est-ce que c'est ça qui l'a convaincu ? Je ne suis pas sûr, c'est plus le voyage et la confrontation à la réalité qui, à un moment donné, a fait cet électrochoc. Et je crois que ça arrive beaucoup aussi chez des personnes comme vous qui, à un moment donné, disent on va faire tour du monde, on va voir ce qui se passe. Et de sortir de notre cocon ici, de notre confort ici, et de voir quelles conséquences tout ça, ça a, je crois que ça, c'est un électrochoc qui fait que beaucoup d'initiatives naissent. Ouais.
Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez soutenu par les gouvernements ?
Alors, humblement, je crois qu'on est encore trop petit pour vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais alors, ce qui est presque... Je suis allé à la rencontre, notamment en Allemagne aussi, des politiques. Et il n'y a pas grand-chose qui se passe, en fait. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est lié à mon discours ou à un discours qui est trop... start-up par rapport à des personnes qui ont beaucoup d'expérience et que c'est deux vocabulaires par moment même différents. Mais je crois qu'il y a un lien qui ne se fait pas encore assez. C'est-à-dire le lien, il se fait, notamment j'étais à la station F ici à Paris, où on est très fiers des petites start-up qui vont lever je ne sais pas combien de millions. Mais à un moment donné, on ne s'autorise pas aussi les politiques de dire... Vous avez un vrai rôle à jouer dans la construction de notre société et on va le prendre au sérieux, en fait. Mmh. Au-delà de, c'est un joli petit phénomène qui fait la fierté de la France pendant 5 ans et après, on n'entend plus parler. Et ça, c'est d'après moi le rôle des politiques, mais aussi des start-up qui, à un moment donné, disent on ne le fait pas juste pour s'amuser, mais il y a quelque chose, vraiment, on veut avoir une vision à long terme. Et des jeunes comme vous aussi qui disent non, c'est pas juste pour passer un bon moment, on a un rôle à jouer, quoi.
Et de toute manière, ça fait écho avec les propos de Mme Bavé qui disait tout à l'heure, qui parlait de complémentarité entre justement les initiatives privées et les politiques publiques.
Mais par contre, je crois que si l'État et les institutions locales ont une responsabilité, c'est de soutenir les jeunes pousses et non pas les start-up puissantes. Mmh. Et c'est vrai que les politiques, trop souvent, cherchent des vitrines, donc des entreprises qui sont déjà visibles. Et on peut constater d'ailleurs, et je le déplore personnellement, que les États sont en train de se transformer en sorte d'entreprise au sens où ils utilisent les mêmes stratégies de communication, etc., les mêmes stratégies de décision, qui finalement se retournent contre l'intérêt général qui serait de soutenir le plus innovant, mais aussi le plus faible et le plus prometteur.
On va maintenant parler de l'incompatibilité potentielle, c'est ce qu'on va questionner, entre l'écologie et les logiques partisanes. Vous avez soutenu la France Insoumise aux élections présidentielles de 2017, à la différence de la direction d'Europe Écologie Les Verts. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça ?
Comme j'avais fait campagne contre le traité et le TCE, parce que je crois que faire de la politique, ce n'est pas appartenir à un parti famille, c'est essayer de trouver le meilleur outil à un instant donné pour atteindre son objectif. Mon objectif, c'est la transformation écologiste de la société et aussi l'augmentation démocratique. Et je crois que c'est intimement lié. Donc on peut dire que les logiques partisanes, parfois, vont contre l'avancée démocratique, hein, parce que les élus sont conservateurs. Par contre, je crois que l'écologie est notre responsabilité à tous. Il y a des associations écologistes depuis la création du Parti écologique, d'ailleurs. Il y a eu un grand débat dès 1974 pour savoir s'il fallait être associatif ou politique. Moi, je suis du côté de ceux qui disent que c'est un sujet politique. Et la preuve en est que plus aucun parti politique ne peut faire abstraction des questions écologiques dans le programme. Mais par contre, ça démontre quoi ? C'est que les réponses sont totalement différentes. Là où Corinne Lepage peut penser qu'il y a des solutions entrepreneuriales des grandes multinationales pourraient peut-être résoudre la question, je suis beaucoup plus interrogative et je pense qu'il faut, et peut-être d'ailleurs en désaccord avec certains dans mon parti, je pense que les politiques ont la responsabilité de changer les règles du jeu et de ne pas être seulement des incitateurs ou des gens qui font un peu de lobbying pour que la situation évolue. La responsabilité politique, c'est transformer les règles. C'est ce qu'on appelle une constitution quand il s'agit de la société. Mais je pense que quand il s'agit de l'écologie, si on veut constituer ce sujet-là comme un bien commun, alors on a la responsabilité des règles. Et quand il s'agit de règles, on voit bien les différenciations des différents acteurs.
Et comment vous expliquez que Europe Écologie Les Verts n'est pas, enfin, la direction en tout cas n'ait pas compris ça au moment des élections et ne vous ait pas suivi ?
Alors pourquoi elle ne m'a pas suivi ? Parce qu'il y a, je pense, des phénomènes générationnels. Moi, j'appartiens à la génération des lanceurs d'alerte. J'ai essayé d'ailleurs de réglementer. J'ai eu un grand débat, notamment avec l'économiste Alain Lipiès, sur la marchandisation des droits à polluer. C'était un très grand désaccord dans notre parti. Finalement, c'est la position, entre guillemets, gouvernementale qui a gagné. C'est-à-dire, finalement, comme ça se faisait au niveau mondial et qu'on voulait montrer que les écologistes sont dignes d'exercer des responsabilités ministérielles, a mis un peu d'eau dans notre vin. Bon. Ceci étant, aujourd'hui, la marchandisation a prouvé son inefficacité et je pense a fait reculer le parti dans sa capacité à peser sur le réel. Parce que l'enjeu, c'est bien de peser sur le réel. Pourquoi la France insoumise ? C'est que la France insoumise veut programmatiser, a construit une vision prospective des avancées écologistes. Et ça, c'est un engagement. Donc, il y a un parti qui a une vision, je dirais, une vision, et puis un autre qui a un peu trop tendance à godiller. Mais je suis toujours dans ce parti. Pourquoi ? Parce que je pense que l'intérêt du débat politique, c'est d'oser désobéir, mais ne pas abandonner le projet. Il ne s'agit pas d'une concurrence, il s'agit de se convaincre les uns les autres du meilleur outillage pour y arriver, parce que le temps presse. Hein. On le voit bien, aujourd'hui tout le monde est conscient. Mais qu'est-ce qu'on construit ? Des plans, on va voter à Paris sans tarder un plan climat-énergie pour 2050. Pour la première fois, on va prendre des dispositions pour 2020. On voit, là, il y a une avancée. Mais il aura fallu plus de 15 ans pour qu'on prenne des décisions de court terme. Et je pense que nos réponses ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et dans ces cas-là, si on veut qu'un débat soit posé, il faut oser désobéir. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit d'agir.
Et concernant l'écologie, est-ce que selon vous, le combat écologique doit-il être mené par un seul parti ou bien par l'ensemble du champ politique ?
L'écologie nous appartient à tous. Mais je pense qu'il faut un parti de l'écologie politique.
D'accord. Et, mais pourquoi ?
Bah parce que nous sommes encore loin d'avoir atteint des réponses à hauteur des enjeux. Donc je crois que cette question-là doit être la priorité d'une structure, ce qui ne signifie pas qu'elle ne doit pas se préoccuper de social, parce que je crois que ces questions-là sont intimement liées, je dirais même totalement articulées.
Très bien. Donc selon vous, Europe Écologie Les Verts est toujours utile pour demain toujours,
Il y a besoin d'un parti de l'écologie politique.
Le député Éric Alauzet, donc ex-Europe Écologie Les Verts, se présentait sous l'étiquette majorité présidentielle dans le cadre des élections législatives, donc, et comme candidat écologiste et Macron-compatible. Donc, pensez-vous, comme M. Alauzet, que l'écologie est Macron-compatible ?
Je crois que tous les êtres humains peuvent se résigner un jour ou l'autre.
Merci. Cette
Quelle réaction quand même sur le fait qu'il y ait un seul député qui se considère comme écologiste. Aujourd'hui, on va sur le site de l'Assemblée nationale, il y a un seul député qui se déclare comme écologiste et qui n'est pas de votre formation politique.
Ça parle de notre arrangement démocratique. L'arrangement démocratique de la Ve République qui fait que qui cherchait des partis puissants et qui donc a permis à deux partis qui s'appellent aujourd'hui LR et Parti Socialiste de conserver le pouvoir parce qu'ils ont refusé la proportionnelle à de ce qu'on appelait des petits partis comme Europe Écologie Les Verts, le Modem ou le PCF. Donc c'est cet arrangement démocratique, je dis bien un arrangement parce que je pense qu'on est loin d'un idéal démocratique, c'est cet arrangement-là qui permet à des partis d'entrer par protection à l'Assemblée nationale. Si Europe Écologie Les Verts a eu des 18 élus à la haine au coup précédent, c'est parce qu'il y avait eu un accord avec le Parti Socialiste qui, dans sa grande bonté, avait décidé du nombre d'élus qui représenteraient l'écologie politique. Donc je crois que c'est cela qu'il faut faire évoluer, mais ça ne dit rien sur l'écologie politique.
Alors, on a parlé de Macron-compatibilité, on va me parler de libéralo-compatibilité. Je vous pose la question à vous, Monsieur Richter. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de prôner à la fois la croissance économique et la préservation de l'environnement? Est-ce que la notion de développement durable, selon vous, est une notion qui est pertinente?
Alors pour moi, il y a quelque chose qui vient, où il va falloir finir avec ça, c'est l'exploitation. On parle toujours d'exploitation agricole, c'est-à-dire on exploite la nature et on n'en prend pas soin. Et qu'aujourd'hui, il y a des approches qui fonctionnent où on remarque que si on prend soin d'un jardin, Les plantes, elles vont pousser. On n'a pas besoin de les forcer à pousser, on n'a pas besoin de les forcer à grandir ou à croître. Donc pour moi, c'est une aberration de vouloir provoquer la croissance juste avec, que ce soit du financier, de l'argent. C'est pour moi, si on prenait soin plus de nos jeunes, de nos campagnes, de ce qui se passe dans ces pays, automatiquement, il y aurait de la croissance parce que c'est dans la nature de tout vivant de croître. Et d'après moi, si on change sort pas de la pensée qu'on a avant d'exploiter un maximum, du coup d'avoir des terres mortes, mais aussi des personnes. On le voit dans les entreprises. Moi, j'ai travaillé en tant que coach dans des multinationales où les gens sont épuisés. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire burn-out, dépression, suicide, deuxième cause chez les jeunes, chez nous en France. À un moment donné, il y a des raisons pour ça. Et si on ne se pose pas la question vraiment de là-dessus, je crois que c'est juste une question de temps, parce que moi aujourd'hui j'ai changé de vie et je crois que je vais être bien avec ça, mais si on continue comme ça, ben dans 20-30 ans, notamment vous qui allez le vivre, ça va être peut-être pas très joli à voir, et on va se reposer les mêmes questions, et l'homme par nature rentre dans le mur avant de changer, et je crois que c'est plus à nous de choisir à quel point ça doit être violent ou pas, et aujourd'hui on est de plus en plus à être conscient et que peut-être on n'a pas, il y a certaines choses qu'on peut éviter par rapport à ça. Donc, moi, je crois du coup un certain libéralisme. Je ne crois pas que ça soit la porte de sortie par rapport à tout ça. Ouais.
Et vous, Madame Bavet ?
Moi, je pense que la question qui nous est posée aujourd'hui en tant que société humaine, c'est est-ce qu'une société est capable de changer de manière volontaire ? Les sociétés ne cessent de se transformer. Mais souvent, c'est par le laisser-faire, je dirais. Est-ce que volontairement, on est capable de le faire ? Pour moi, la question est ouverte et c'est celle qui va impacter votre génération et c'est votre responsabilité. Regardez ce qui s'est passé en Chine. Les Chinois étaient censés être les pires des pollueurs. Eh bien, ils ont pris une décision et ils ont accéléré le processus. Pourquoi ? Parce qu'ils se trouvaient devant un fait réel, c'est celui où on n'arrive plus à respirer. Donc peut-être que les sociétés n'évoluent que quand elles sont au pied du mur. Moi, je souhaite qu'on puisse inventer un nouvel état du monde. Je crois que ça s'est déjà produit d'ailleurs en Angleterre à la fin du 19e siècle. Le fog inondait Londres, empêchait de respirer. Les enfants, il y avait beaucoup de maladies des enfants. Des décisions de réglementation ont été prises par les politiques pour améliorer la santé sociale, la santé de ce qu'on appelait les travailleurs à cet instant-là, qui étaient souvent extrêmement exploités. Donc, on sait qu'une société peut, de manière consciente, évoluer. La question qui nous est posée, c'est serons-nous capables ensemble de le faire ? Est-ce que nous le voulons ?
Ce sont les prochaines années qui nous donneront des réponses et des éléments de réponse. Et d'ici là, prenons peut-être un peu de pause, un peu de hauteur. C'est l'instant, c'est la chronique de Laszlo.
Bonjour Madame Mavet, bonjour Monsieur Richter. C'est l'événement techno-écolo de la semaine, celle qui vous permettra, Monsieur Richter, de planter des arbres sur la planète Mars quand vous n'aurez plus de place sur la Terre. Mardi soir, la société SpaceX a fait décoller la plus puissante des fusées depuis le centre spatial Kennedy, en Floride. Son nom, Falcon Heavy. À son bord, un certain Starman, mannequin habillé d'une combinaison spatiale et installé, cerise sur le gâteau, au volant d'une voiture de sport électrique couleur cerise. Propulsé en direction de Mars, Starman sera bientôt mis en orbite autour de la planète rouge pour le restant de ses jours. Alors, le scénario relève peut-être du fantasque. L'homme à la tête de cette aventure aussi fêlée que stellaire, vous le connaissez sans doute, c'est Elon Musk. Pourtant, en mars 2006, lorsqu'il s'adresse aux mastodontes de l'industrie lors d'un congrès spatial, il a de quoi faire rire. Dans un article daté du 25 janvier, le journal Libération rapporte ses propos. « Salut à tous, je m'appelle Elon Musk, je suis le fondateur de SpaceX et dans 5 ans, vous êtes tous morts. » C'est comme si vous, Monsieur Richter, vous vous adressiez à Sundar Pichai, le PDG de Google, pour lui dire droit dans les yeux « Salut, je m'appelle Ferdinand Richter et dans 5 ans, j'aurai remplacé votre QG à la Silicon Valley par une forêt entière d'arbres fruitiers. » Alors aujourd'hui, Elon Musk terrorise pourtant l'Agence spatiale européenne. Le 25 janvier dernier, l'agence intergouvernementale a tenté un lancement de son Ariane 5, beaucoup plus petite que celle d'Elon Musk. Manque de peau, elle a pris une mauvaise trajectoire. Cela serait dû à une erreur de calcul, ce n'est pourtant pas très difficile de résoudre quelques équations. Du coup, mauvaise pub pour l'agence, excellent coup de projecteur pour Elon Musk, ravi de participer au jeu de qui a la plus performante. À 46 ans, l'entrepreneur milliardaire visionnaire, le Tony Stark de notre monde réel, est partout. Le service de paiement en ligne PayPal, c'est à lui. Il dirige aussi Tesla, la marque de la voiture de sport électrique envoyée avec la fusée. Ou encore SolarCity, entreprise de panneaux solaires. En 10 ans, l'extravagant personnage Twittos frénétique est aussi devenu le roi des énergies renouvelables. Si un lien l'unit avec vous, Monsieur Richter, c'est bien cette conscience écologique. Bon, vous me direz, une fusée composée de 28 moteurs et consommant des tonnes de kérosène, c'est encore un déchet de plus gravitant autour de notre petite Terre en perdition. Mais Elon Musk a tout prévu. 2 minutes après le décollage, 2 des lanceurs se sont détachés de la fusée centrale et sont revenus sur une zone d'atterrissage. L'autre grande première, la récupération de 27 des 28 moteurs. Un procédé de récup sans commune mesure avec les professionnels du système D ou du recyclage bobo écolo. C'est le point central au cœur de la stratégie de SpaceX pour réduire le coût écologique, mais aussi et surtout le coût des vols spatiaux. Car Elon Musk, tout déjanté qu'il est, reste un homme d'affaires. Il prévoit de rallier Mars à l'horizon 2024 et de vendre des billets à des touristes excités par l'idée de faire des selfies autour de la Lune. Comme quoi, viser les étoiles permet souvent de les côtoyer.
Merci Laszlo.
Merci.
Eh bien écoute, je te propose qu'on lance une invitation à Elon Musk.
Avec grand plaisir si on pouvait recevoir dans notre studio.
Elon Musk, si à tout hasard vous écoutez cette émission, sachez que nous allons vous contacter très prochainement. Merci Laszlo. C'est la fin de cette émission qui a été réalisée par Léo Sylvan et préparée avec l'aide également de Maxime, Rémi, La chronique de la STOP que nous venons d'écouter. Je remercie également Manon Calmeil d'être venue présenter Pavé pendant l'instant engagé. N'hésitez pas à réagir, commenter et à faire des suggestions sur cette émission. Merci Francine Bavé et Ferdinand Richter d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, vous êtes en train d'inventer l'avenir.
Bah écoutez, en tout cas, on essaye de préparer ce nouveau rendez-vous pour l'avenir, ça on ne sait pas. En tout cas, on va essayer de le décrypter, en tout cas, cet avenir. Merci d'être venu, en tout cas, ce matin dans l'émission Les Nouvelles Ondes. N'hésitez pas à réagir, commenter et à faire des suggestions sur ce nouveau rendez-vous. Cette émission, c'est la vôtre, on la construit ensemble. On se retrouve tous très bientôt pour une nouvelle émission Les Nouvelles Ondes avec La Péniche. Très bonne journée.